On est dans cette série qui s'appelle « Emmène-moi à l'Église ». Donc, c'est quoi les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas participer, être partis, s'intégrer dans une Église? La réalité, c'est que historiquement, l'Église est perçue, et je pense que c'est vrai que l'Église, historiquement, elle a eu des positions très homophobes. Et aussi une vision oppressive de la sexualité. Et c'est quoi, je veux expliquer, c'est quoi un peu ça. La question, c'est que les gens qui, de quelque façon, sont un attrait, une attirance aux gens de même sexe, quand ça est mis en public ou est partagé, l'Église, pendant son histoire là, a de quelque façon rejeté. A dit, vous autres ne sont pas les bienvenus ici. Et a même dit, vous autres. Comme que à ce moment, quand cet sentiment a été partagé, tu n'es pas parti de la famille encore, tu es dans l'autre côté là. Tu es, c'est vous et nous. Donc c'est vrai que ça passait dans l'histoire de l'Église. Et c'est possible que tu aies aujourd'hui ici, que marche déjà avec l'Église 21 pour quelque temps, tu dis, non, mais ça, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas l'Église 21. Mais on a besoin de prendre la responsabilité que on est parti, nous, l'Église 21, on est parti d'une histoire de l'Église de Jésus pour les 2000 ans qu'elle est là. Et c'est important de prendre la responsabilité et dire, oui, c'est vrai, ça a passé. L'autre chose là, c'est une vision oppressive de la sexualité. C'est rare de voir dans l'Église la sexualité être vécue d'une façon joyeuse, d'une façon libre, d'une façon légère. Tu sais, le sujet de la sexualité à l'Église est toujours quelque chose un peu caché, on ne peut pas parler, et on sourit ensemble un peu avec des blagues, parce que c'est un peu inconfortable. Ce n'est pas confortable pour l'Église parler de la sexualité. Pourquoi? Si Dieu nous a créés, tout comme nous sommes là, avec plein de sexualité dans nos corps, hein? Chaque partie de nos corps, elle est de quelque façon liée à la sexualité. Notre corps, il sent les touches, l'affection, les désirs. Donc ça, c'est Dieu nous a créés comme ça. Donc c'est quoi de vivre ce genre de vie dans le corps que Dieu nous a donné, avec joie, avec liberté? Oui, selon l'Évangile, oui, selon la parole de Dieu, mais avec beaucoup de joie. Donc, je veux commencer pour dire, pardonnez-nous. Je veux dire à nos amis qui sont avec nous que de quelque façon, on sentit que l'Église est homophobe et a une vision oppressive de la sexualité. Je veux dire, pardonnez-nous. C'est vrai, ça passé et on veut tourner la page, on veut regarder l'histoire, mais on veut tourner la page, c'est ça que dit, on veut renouveler cette perception aujourd'hui. Merci pour la patience que vous autres ont pendant qu'on parle d'un sujet tellement un peu lourd là, c'est... Il y a tellement de difficultés historiques avec ça qu'on veut adresser ce sujet-là pour dire, ok, aujourd'hui, on va changer ce sujet-là de lourd à un sujet léger parce que Jésus, il renouvelle toutes les choses. Il nous redonne l'opportunité de se communiquer, de s'exprimer, d'ouvrir nos cœurs, de partager nos vies ensemble, de quelques parties de nos vies, et ça inclut la sexualité. Regarde qu'il y a cinq importantes réflexions de base pour notre conversation aujourd'hui. La première, c'est la conviction, la réflexion que les idées que l'Église a par rapport au sexe n'ont pas leur origine en Dieu. Ça, c'est la première chose. Parfois, l'origine des idées que l'Église a historiquement, et même aujourd'hui, sur la sexualité, sont beaucoup basées sur la tradition, sur une perception conservatrice de la vie sexuelle. C'est la chose qu'on ne peut pas parler de ça dans la table de chez nous, là, parce qu'on ne peut pas parler de sexe. Maman et papa, ça, ce n'est pas un bon sujet de s'en parler, là. Ça, ce n'est pas une chose naturelle. Ça, c'est une chose à vivre de façon cachée. Donc, les idées que l'Église a par rapport au sexe n'ont pas leur origine en Dieu. Et c'est ça, je vous montre que pour Dieu, ça, c'est seulement un verset qu'on a là dans la parole de Dieu, mais pour Dieu, dans différentes parties de la Bible, toujours, le sexe a été une belle chose. C'est dans la création là, des êtres humains, la relation sexuelle, c'était une belle chose à vivre. Ce n'était pas une chose pour vivre. Et je ne sais pas si pour vous autres, ça c'est un petit détail qui vous appelle votre attention, mais pour moi, ça a appelé mon attention, le « enivre-toi ». Et ça a appelé ton attention là. Mais « enivre-toi », c'était très intéressant, parce que ce n'est pas comme que prendre un petit morceau, non, non, non. C'est « enivre-toi », ce n'est pas de prendre un petit morceau, c'est vivre ça avec beaucoup de joie, tu sais. C'est tellement différent de « oh non, prendre un petit morceau et que personne ne te voit là hein, pendant que tu prends un morceau. » Tu sais, c'est différent, c'est avec beaucoup de tu te donnes à l'expérience. Jésus, il nous a enseigné que l'amour, il est bon. Je parle de la sexualité ici, la vie d'une expression sexuelle riche, elle est bonne. Donc ça, c'est la première chose. Dieu n'était pas surpris avec les parties de nos corps qui donnent des plaisirs sexuels. C'était lui qui nous a créés comme ça. Donc, c'est bon. Le sexe, il est bon. La première chose. Deuxième chose là, des faux enseignements. Ça, c'est très subtil. Donc, s'il vous plaît, restez avec moi là. Le premier faux enseignement qu'il y a, c'est que les péchés qui sont liés à la sexualité sont les pires péchés au monde. Quel mensonge, hein? Quel mensonge! Cette perception que les péchés liés à la sexualité sont les péchés, les pires péchés au monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, l'envie, l'excès de table et actuellement les péchés de la corruption. Terrible, des choses terribles qui se passent au monde. Et on peut parler de tout là, mais les péchés de la sexualité, ça c'est, oh, on peut, c'est terrible. Non, ça c'est un faux enseignement. Le deuxième là, Dieu haït les homosexuels. Non, ça ce n'est pas vrai. Dieu aime les gens. Toutes les gens, chaque personne, chacun de nous avec nos défis, avec nos réflexions, avec nos tensions émotionnelles. Dieu nous aime et Dieu t'aime. Semaine passée, on a parlé de l'hypocrisie. Tu sais c'est quoi le problème avec l'hypocrisie? On a parlé un peu la semaine passée. C'est que on cache les choses parce qu'on pense que si on met toutes les choses qui se passent dans nos corps à la lumière, Dieu ne nous aime pas. Ou la famille ne nous va aimer pas. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu aime les gens. Troisième chose, les hétérosexuels et les personnes mariées sont les meilleurs. Quelle perception fausse. Fausse, né? Fausse. Fausse, merci, Joey. Jésus était célibataire, là. C'est Jésus, il n'était pas marié. Donc, ça, c'est un mensonge que les hétérosexuels et les personnes mariées sont les meilleurs. Mais à l'Église, il y a cette, de quelque façon, enseignement historique, là, que si toi, une vie différente de ça, que tu es le pire du monde, là. Non. Non. Les hétérosexuels et les personnes mariées ne sont pas les meilleurs. Nous sommes toutes les personnes avec beaucoup d'incompréhension et complexité non résolue dans nos vies sexuelles. Mes amis, si nous, si on pourrait entendre sur les défis dans la vie sexuelle des hétérosexuels et des personnes mariées, man, on avait beaucoup de choses à s'en parler. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta vie là, mais ma vie sexuelle, historiquement, de ma jeunesse jusqu'aujourd'hui, man, c'est tout le défi des incompréhensions, des choses non résolues, des choses que je travaille encore avec Dieu. Et c'est ça avec tous les gens. On est tous des personnes qui vivent dans nos vies sexuelles, beaucoup de complexités non résolues. On n'est pas toutes réglées là, non, non. Ok, donc ça c'est la deuxième chose là, c'est des faux enseignements. Troisième, la culture de la protestation communique l'évangile au monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois, la culture de protestation, par exemple, contre les homosexuels ou tous ces genres de haine exprimés par l'Église contre ce groupe, de quelque façon, ça ne démontre pas du tout l'amour de Jésus. C'est le groupe LGBT. Je vois, j'ai des amis qui sont homosexuels et parfois la perception que cette culture de protestation amène, c'est exactement le contraire de l'évangile. C'est une perception de rejet, de haine contre les personnes que Dieu aime. Donc non. Quatrième, là, le changement de comportement, c'est le but de l'Église. Je veux lire un peu de mes notes ici. Le changement de la sexualité est le but principal pour quelques personnes. Au lieu d'avoir l'évangile au centre, ça veut dire toute notre vie complètement rendue à Jésus, les hétérosexuels et les personnes mariées sont corrects, n'est-ce pas? Donc maintenant le travail c'est de changer toutes les autres automatiquement à être comme les hétérosexuels et les personnes mariées. C'est ça le but principal de quelques personnes. Tu arrives au rassemblement de l'Église et la première question c'est est-ce que tu es hétérosexuel? Est-ce que tu es marié? Parfait. Non? Ok, on va te changer donc. Mais ce n'est pas comme ça. Tu sais, ce n'est pas comme ça. On ne commence pas nos conversations avec l'intimité sexuelle de quelqu'un. Non. Le changement de comportement, ce n'est pas le but principal. Jésus, il parle de cœur, il parle de motivation intime, il parle d'une soumission complète de la vie d'un être humain à lui. Le changement de comportement, c'est d'accord avec sa direction, avec chaque personne, sa relation avec chaque personne. On veut être la police du monde. Ça, c'est terrible. On veut être la police du monde et changer le monde selon nos propres façons d'être. Ce n'est pas comme ça. Jésus est le seul qui devrait avoir ce genre d'autorité là et changer chaque personne selon son amour, parce qu'il est le seul mort pour chaque personne. Et aussi selon les valeurs de son royaume, ça veut dire aussi la patience. Ça veut dire marcher avec quelqu'un dans les processus de vie de chaque personne. On veut, c'est terrible comment on pense que chaque personne devrait changer automatiquement. Tu sais, toi qui es l'église ici, si on change les choses, les sujets de quelques perceptions de la conversation sur la sexualité pour quelques autres sujets, je te demande, est-ce que c'est facile à toi de laisser quelques habitudes, de sortir d'une habitude que tu as pendant des années et que tu veux, tu regardes, tu dis, ok, je veux changer ça dans ma vie. Mais ce n'est pas automatique. C'est un processus de soumission à Jésus. C'est un processus de, avec la soumission à Jésus, c'est un processus de patience, d'essai, de vivre l'amour et l'acceptation des autres pendant qu'on change. On n'est pas les robots qu'on tire un part, on met une autre partie, on est une autre personne. Non, ce n'est pas comme ça avec des êtres humains. Non. Dernièrement, la peur comme la base de la discussion. C'est vrai, l'Église, historiquement et aujourd'hui, et ça je parle aussi de notre Église, Église 21, on a peur de parler sur le sujet de l'homosexualité. On a peur de se relationner, principalement je parle des hétérosexuels à l'Église. On a peur de se relationner avec cette personne qui a un désir que c'est étrange à nous. Je ne sais pas comment gérer ma relation avec une personne qui a un désir différent de mon désir. Donc, la peur domine la discussion, la relation. Mais regarde ce verset biblique là. J'aimerais si on pourrait les lire ensemble. Est-ce que tu peux les lire avec moi? 1, 2, 3. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Mais la punition qu'il y a pour les péchés a été toute mise sur Jésus dans la croix. Donc l'amour de Jésus nous renouvelle sans punition, parce que lui, il a pris la punition sur lui. Donc on peut vivre basé sur l'amour et non basé sur la peur. Ça, c'est cinq importantes réflexions de base pour notre conversation d'aujourd'hui. Je vois des deux côtés, et maintenant, laisse-moi, s'il vous plaît, mettre les deux côtés là, l'Église et le mouvement, de quelque façon, LGBT. Je vois deux côtés là. Et je veux dire, c'est important d'être honnête là, qu'il y a dans les deux côtés un manque de compréhension. Il y a un manque de compassion, il y a un manque d'amour des deux côtés là. Je peux dire que initialement, c'était de l'Église par rapport au mouvement, aux gens qui vivent les désirs LGBT, de quelque façon, c'est complexe même de dire ça, parler de ça en français pour moi, donc pardonne-moi ma limitation. Mais après quelques temps, il y a aussi de la partie de mouvement LGBT, il y a un rejet de l'Église maintenant. Donc il y a des deux côtés là une limitation de compréhension et aussi un manque d'amour, un manque de capacité de s'entendre. C'est vrai. Si toi as expérimenté l'hostilité de l'Église ou l'oppression, je veux dire, comme j'ai dit là, pardonnez-nous. On veut aujourd'hui, comme Église 21, dire, ok, on change la façon comme les choses vont se passer. On veut les changer. C'est vrai. On veut centrer notre réflexion sur la vie de Jésus, sur l'amour de Jésus, sur Jésus comme notre sauveur de nous tous. Et Jésus seulement, il est le seul avec l'autorité pour diriger la vie de chaque personne à changer selon sa relation, lui, Jésus, avec chaque personne. On n'est pas la police des autres, non. Nous ne sommes pas la police des autres, non. L'année passée, ça c'était un moment très important, notre côté anglophone, Church 21, a été invité pour participer dans une discussion avec le mouvement LGBT à l'Université McGill. C'est que l'Université McGill est très connue au monde, c'est la 16e université plus reconnue au monde académiquement. Donc c'est un espace de réflexion très riche là. académiquement reconnu au monde. Donc le mouvement LGBT de l'Université McGill avait invité notre église anglophone à une conversation là. Et dans cette conversation, l'évangile a été complètement partagé. Il y avait, oui, des désaccords, mais avec beaucoup de respect et le désir de se comprendre les uns aux autres. Donc, c'est important de continuer la conversation, mais regarde que on a besoin de continuer la conversation avec cette perception, numéro un, que on va avoir des désaccords, parce que si on est intelligent, si on pense, c'est naturel qu'il y a des désaccords. Ok, première chose. Mais aussi avec beaucoup de respect que chaque personne doit être respectée, regarde cette affirmation de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. S'il vous plaît, je vous laisse lire. On est complètement d'accord avec cette affirmation de cette femme-là. Quand tu as complété, s'il vous plaît, dis OK, on peut continuer. Ok, merci. C'est très intéressant et je vais même poster cette affirmation chez notre page Facebook là. Je veux que à notre église, le respect à la personne humaine soit basé sur cette affirmation. Les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels sont des membres à part entière et égaux de la famille humaine. On a le droit d'être traité de la sorte. Non. On ne va pas vivre une culture d'haine, mais une culture de respect à des êtres humains. À des êtres humains qui vivent leur défi, leur incompréhension, leur sexualité de leur façon, d'une façon différente de la façon, disons, normale à l'Église. On veut dire non. On veut dire non. On veut détruire la barrière et dire on est tous des êtres humains. On va se respecter. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous des êtres humains créés par le Dieu créateur, égaux devant Dieu. Oui, c'est vrai. La troisième leçon qu'a sorti de cette rencontre avec le mouvement LGBT à l'Université McGill, c'est nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs devant un Dieu parfait. Les gens qui avaient participent de ce mouvement-là et qui ont une croyance en Dieu, ils ont reconnu qu'on est tous des pécheurs. On n'est pas parfait, tous nous. Donc, avec cette perception, que je voulais vous inviter à lire ce verset-là. Regarde, le verset de Romains 3 dit, il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. On est tous des êtres humains qui a manqué, selon les standards, selon la vie de Dieu, on a manqué, on n'est pas comme Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, c'est la grâce de Jésus qui nous renouvelle, par le moyen de la libération que se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour nous de nos péchés, pour ceux qui croyaient. Il a démontré dans le temps présent de la manière à être juste, tout en déclarant juste, c'est lui qui a la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous renouvelle. Ce n'est pas d'être, de se comporter moralement que nous justifie devant Dieu. C'est la foi en Jésus qui nous renouvelle complètement. OK, je veux réviser un peu la création de l'homme pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça s'est passé un peu. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de lire avec moi un peu de l'histoire. On va passer pour ce moment de quelque façon rapidement. Mais la création de Dieu, c'était comme ça. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc, tous nous, tous les êtres humains, de toutes orientations et perceptions et décisions sexuelles, on a tous été créés par Dieu. C'est vrai. Deuxième chose, l'éternel Dieu fit pousser du sol ses arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un choix pour l'homme là. Troisième, l'éternel Dieu donna cette ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas la fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu avait mis des limites. C'est important que pour tous nous, les êtres humains là, Dieu a mis des limites. Dieu a mis un entourage d'amour pour nous protéger. Oui. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas de honte. Regarde que la vie avec Dieu, c'était complètement pur. Le cœur des êtres humains était pur devant Dieu dans ce moment-là. Mais la serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Regarde que l'homme a décidé, et oui, avec l'influence du mal, mais l'homme a décidé de connaître, de désirer d'être comme Dieu. Dieu est le pur, le parfait, qui peut juger, qui peut savoir le bien et le mal, mais l'homme, on veut être comme Dieu. On veut prendre la place du Créateur. Regarde, qu'est-ce que ça passait? Leurs yeux à tous les deux s'ouvrir et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. L'honte arrivée, ils attachaient des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cacheraient loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Pour la première fois, quand ils ont décidé de désobéir Dieu, ils sont cachés. C'est intéressant comment on a cette tendance de cacher nos péchés, de cacher nos vies de Dieu. Quand Dieu nous amène, nous invite à amener toutes nos vies à la lumière, l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nous? C'est quoi que tu as fait, mon fils, ma fille? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Oui, il y a des limites que Dieu nous met à tous les hommes et femmes. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ces fruits et je n'en ai mangé. Regarde que le péché commence à se multiplier là. Hein? C'est l'autre le responsable. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, la serpent m'a trompé. On commence à partager la culpabilité aux autres. C'est la culpabilité que c'est le sujet clé maintenant. On commence à vivre de la culpabilité pour les uns, pour les autres. L'Éternel Dieu donne cette ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangerais pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ça, ce n'était pas seulement pour les personnes avec une orientation sexuelle LGBT. Ça, c'était pour toutes les personnes au monde. Chaque personne au monde a, de quelque façon, choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symboliquement. On a décidé d'être comme Dieu. Et on continue ce processus-là, parfois. On veut prendre la direction de nos vies, au lieu de donner nos vies complètement en soumission à Dieu, notre Créateur qui nous aime. Et c'est ça, ça nous amène à la mort, c'est certain, dit le verset. Oui, je continue là. Regarde qu'il n'y a pas de différence. Regarde que pour tous nous les êtres humains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, je crois que la perception que quelques personnes d'une certaine décision d'orientation sexuelle est pire que d'autres personnes qui ont un choix différent d'orientation sexuelle, de décision d'orientation sexuelle. Je crois que cette perception qu'une est pire que l'autre, c'est une perception qui n'est pas basée pour cette vérité ici du verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune qui est meilleure que l'autre. On est tous péchés, on a tous péché devant Dieu. Mais regarde que Dieu il a mis un parcours de libération. Dieu, un autre verset là d'Éphésiens 2. Mes amis, quelle beauté! Dieu, il est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas, j'arrête là, ce n'est pas par ton comportement moral. Ton comportement moral peut changer comme un résultat de le changement de cœur que la grâce par laquelle vous êtes sauvés peut amener. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes amis, Dieu, si tu es une personne avec une décision de choix sexuel, de choix de sexualité LGBT, ou si tu es un hétérosexuel, ou si tu es marié ou célibataire, chaque personne au monde, par la grâce de Jésus, peut être sauvée. Peut être sauvé, chaque personne. Et il nous a, regarde le verset 6 là, et il nous a, si on vivre cette salut de Jésus, il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour moi, il y a une beauté là, c'est ok, on était tous des pécheurs ici en bas, on vivait la souffrance, nos incompréhensions, notre désir de rébellion contre Dieu. Mais avec Jésus, on a été sauvés, on est tous avec notre bon Dieu maintenant. Parce que Jésus, il nous renouvelle l'identité complètement. Regarde que la repentance, elle nous amène à la foi. Et c'est cet renouvellement de vie, c'est cette repentance avec la foi qui nous renouvelle le cœur. Ce n'est pas le renouvellement des comportements qui nous renouvelle le cœur. Je veux m'arrêter ici un peu pour appeler notre attention à ce point-là. Ce n'est pas le renouvellement des comportements qui nous amène à le renouvellement des cœurs. La salut, le renouvellement des cœurs, un nouveau cœur que Dieu nous donne, ne vient pas pour le renouvellement des comportements, mais pour la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ dans la croix. Est-ce que renouvellement des comportements devrait se passer? Oui. Comment et quand? Dieu le sait. Le renouvellement des comportements se passe selon une relation intime avec Dieu. Dans une communauté d'amour qui nous accepte, qui nous aime, qui nous appelle l'attention aux choses qui devraient changer, oui, mais qui nous démontre l'amour de Dieu pour nous, que c'est un amour d'acceptation inconditionnelle. Il n'y a pas une chose qui peut, toi mon frère, t'éloigner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'a entouré si tu as vécu l'expérience de repentance et foi, l'amour de Dieu t'a entouré d'une façon qui on ne peut pas sortir de cette expérience d'amour. La série s'appelle « Aimez-moi l'Église ». On veut vivre beaucoup d'expériences de communauté ici à Église 21. « Aimez-moi l'Église », ce n'est pas amener les gens ici au bâtiment du cinéma Banque Scotia au dimanche, non. Aimez-moi l'Église, c'est d'inviter les gens à dire « Viens expérimenter le renouvellement des cœurs, que la repentance de notre rébellion et la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ peut nous donner. » C'est ça l'invitation qu'on a pour les gens. Et avec ça, on veut vivre ça avec, basé sur l'amour, n'est pas basé pour les peurs. Non, on ne va pas baser notre vie dans les peurs. Non, non, non. Ça, c'est une décision qu'on a prise, qu'on veut vivre basé sur l'amour. L'amour de Jésus, ça veut dire sa vie donnée pour nous. C'est quoi le plus grand amour que de donner ta vie pour tes amis? C'est ça que Jésus a fait pour nous. Ok, je pense que cette conversation était une bonne conversation et on va la compléter avec ce livre ici. Je veux vous demander d'acheter ce livre ici, s'il vous plaît. Parce que si on veut être connu, être reconnu dans la ville de Montréal comme une ville, comme une église qui aime les homosexuels, comme les lesbiennes, les transgenders, les transsexuels, si on veut être connu comme une église qui a laissé l'homophobie comme partie de l'histoire de l'église et renouveler notre face, c'est important qu'on est bien basé dans notre théologie et dans notre pratique de relation. Donc, s'il vous plaît, cet livre a été écrit par un pasteur au Royaume-Uni qui s'appelle Sam Alberry. Et Sam est un pasteur qui sent l'attrait aux gens de même sexe. Il sent l'attrait pour les hommes, mais il a décidé d'être célibataire. Et là, avec son maître Jésus-Christ, il a décidé de vivre une vie célibataire, de ne pas continuer, de ne pas vivre une vie de pratique sexuelle, mais de s'abstenir de sa sexualité. Il a décidé. Ça, c'est un don que Dieu donne à quelques personnes. La Bible parle de ça aussi. C'est un don de joie. Mais il a décidé de vivre ça. Et il a écrit cet livre sur son expérience de vie et ministère. Le livre s'appelle « Is God anti-gay? » Est-ce que Dieu est contre les gays? C'est le livre. C'est un très bon livre. Il y a une très bonne perception théologique et de pratique de comment se relationner avec les gens parmi nous, qui sont, de quelque façon, un attrait aux gens do même sexe, ou que sont même confusés sur sa propre sexualité. J'ai déjà partagé, je vais prendre um minuto ici, pour dire que quand on était à Bangkok, le café organisme communautaire, o Sarah Campbell, qui était membre de notre église ici, serve maintenant dans cette café organisme communautaire à Bangkok. Eles estão en train de donner aux ladyboys à Bangkok l'opportunité de sortir d'une vie complètement d'un esclavage au commerce sexuel pour s'en sortir pour un nouvel parcours de vie. Tu sais, quand on était là à Bangkok, c'est intéressant que la conversation n'était pas si ces ladyboys qui étaient là avec nous dans les cafés pendant les processus de renouvellement de vie, si ils deviendraient ou non hommes encore. Ça, sont des hommes qui étaient des bébés hommes, qui ont été pris pour leur famille, donnés en esclavage, de quelque façon, esclavage sexuel, qui ont devenu des femmes. Et quand ils arrivaient là, au café, c'était très intéressant, la relation avec une personne que tu sais qui était comme bébé homme, parce que même les traits physiques, là, il y a des traits d'homme, mais que c'est à Sabine et qui vit comme femme, normalement. Il y a 30 ans qu'il vit comme ça. Comment est-ce qu'on va se relationner avec des gens qui ont vécu, par exemple, 7 ans d'expérience? Est-ce qu'on peut vivre une expérience de respect, d'amour, de centralité dans l'évangile de Jésus-Christ pour le renouvellement des cœurs pour tous nous et pour une communauté d'amour qu'on peut vivre ensemble? Oui ou non? Ma réponse pour vous ce matin, c'est oui. Alléluia. Oui. Ça ne dépend pas quelle a été l'expérience d'orientation, de choix, de vie sexuelle de quelqu'un. Ça ne dépend pas de ça. Si quelques personnes au monde a choisi de vivre la repentance de ses péchés, et à mettre complètement sa foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui était mort dans la croix et a ressuscité pour nous. Quelques personnes qui vivent cette expérience peuvent être partie de notre famille. Amen. Je veux réaffirmer ça. Ça ne dépend pas du comportement des gens. Ça dépend d'une expérience, d'une décision, de soumission complète à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je retourne au livre pour dire rapidement qu'il y a une posture gracieuse qu'on a besoin d'apprendre de cet pasteur ici. Joy, je t'invite à venir. La première chose que je veux dire à quelqu'un que de quelque façon vivre un attrait pour une personne du même sexe chez notre église. Je vais commencer pour dire, selon l'instruction de Sam, que tu es aimé, et tu es aimé beaucoup plus que tu peux imaginer. Jésus, il était mort parce que Dieu t'aime à toi. Ta famille, Église 21 Montréal, t'aime beaucoup et nous avons un engagement éternel de marcher avec toi selon l'évangile et la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose que j'ai dit à quelqu'un qui peut sentir un attrait à une autre personne du même sexe. La deuxième chose, c'est important de dire à toi que tu peux parler avec Dieu. Dieu veut t'entendre. Parfois, la personne qui vit un attrait pour une autre personne du même sexe, elle se sent tellement rejetée par la religion qu'elle ne veut pas même parler avec Dieu. Mais Dieu, il veut te parler, il veut t'entendre. S'il vous plaît, aujourd'hui, si tu es une personne qui a vécu la réjection historique de l'Église, etc., s'il vous plaît, reçois aujourd'hui la grâce de Dieu complètement. Et souviens-toi de la rencontre de Jésus avec la femme prise en adultère. Cette femme qui a été prise en train de commettre un péché sexuel terrible là, Jésus avait dit, ne pêche plus, marche avec moi. Le renouvellement des possibilités de vie pour cette femme, c'était incroyable. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, reçois la grâce de Dieu complètement. Parle avec Dieu. Troisième, si tu sens un attrait à quelqu'un du même sexe ici, chez notre église, je veux te dire que tu n'es pas disqualifié pour le service. Non. La choix de Sam dans ce livre-là, je veux que tu puisses connaître cette choix-là, parce qu'on veut, oui, on veut que Dieu t'utilise fortement pour les plusieurs opportunités de service que l'Église a, pour
tous nous, des pécheurs, qu'on était renouvelés par la repentance et la foi mise en Christ. Quatrième, c'est le dernier. Tu as besoin de support des autres. Si toi, tu es parmi nous et tu as un attrait aux gens du même sexe, tu as besoin de support des autres. Comme tout le monde. Comme tous nous, des pécheurs renouvelés par la foi en Jésus, on a besoin de support des autres pour marcher avec Dieu. Les gens ici vont t'aimer. N'ayez pas peur. Les gens d'Église 21 vont t'aimer. Et aussi, je veux dire, l'Église a besoin de toi pour apprendre avec toi, connaître les choses qu'on est en train de faire bien et les choses qu'on n'est pas en train de faire bien dans notre relation comme Église 21 avec la communauté LGBT. Comment aimer les gens qui sont un attrait pour les gens du même sexe? En les aimant comme Jésus. Comme Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés complètement. Donc, je vais finir pour dire à nous, comme Église 21, que toi, pécheur perdu qui a été renouvelé avec Jésus, c'est un peu important de dire, et je parle spécifiquement maintenant à quelqu'un qui peut sentir un attrait pour une autre personne du même sexe, que notre identité, selon Dieu, en Jésus, avec le Saint-Esprit, c'est des enfants de Dieu, bien-aimés. C'est des serviteurs, des gens qui existent pour servir la ville de Montréal, et des missionnaires. Des missionnaires qui ont une mission très claire, la mission de partager le message que tous nous, des pécheurs, on peut vivre un renouvellement pour la repentance et la foi en Jésus-Christ. Cette message, elle est belle. Vendredi passé, on était dans notre groupe de quartier à La Salle et on nous renouvelait la passion pour cette mission de partager l'opportunité de renouvellement de vie avec les gens. Est-ce qu'il y a à Montréal des homosexuels, des lesbiennes, des gays, des transgender, des transsexuels qui se sont rejetés par la société? Est-ce qu'il y a? Je veux te dire oui. Il y a historiquement un manque d'amour. Mais selon notre identité, que tu peux voir à l'écran là, selon notre identité, on a été choisi pour être de lettre d'amour à tous les gens. Et ça inclut aussi les gens qu'on attrait pour les gens du même sexe. Est-ce que tu peux imaginer un renouvellement de la perception que les Québécois ont de l'Église? Je peux. J'ai sorti du Brésil pour venir à Montréal parce que j'ai entendu que l'Église était perçue comme... quel est le contraire de belle? Lé. C'est ça? Mais l'Église, elle est belle. Est-ce que tu peux imaginer l'Église, cet renouvellement de perception sur l'Église? Imagine une réalité où chaque Québécois dirait l'Église est le groupe qui aime le plus les lesbiennes, gays, bisexuels, transgender, transsexuels, et qui a une vision de la sexualité avec beaucoup de liberté, grâce et joie, selon l'Évangile et la parole de Dieu. Oui, ça peut se passer. Mais ça commence avec toi. Je veux te parler pour finir. Ça commence avec ta décision à toi d'aimer chaque personne comme un être humain plein de dignité. Ça commence avec toi quand tu t'arrêtes de faire des blagues avec les homosexuels. Ça commence avec toi quand tu commences à ouvrir toutes tes incompréhensions, tes aspects non résolus de ta vie, pas avec tout le monde, mais avec les gens proches, pour qu'on puisse être complètement ensemble comme famille et prier les uns pour les autres dans nos défis. Ça commence avec la chose qui a commencé la semaine passée, que c'est la décision comprendre, de dire non à l'hypocrisie, mais de dire oui à une culture d'amour complètement soumise à Jésus-Christ. Lui, il est notre maître. Il est notre autorité. Il est le seul qui peut nous dire quoi faire, quoi non faire. Et lui, le parfait, il a décidé de mourir. Et Dieu l'a ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Quel bel maître. Beau maître. Seigneur Jésus, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Saint-Esprit, pour comment ta grâce elle est belle. Oh Seigneur, j'ai sorti ici ce matin. Je complète ce moment de notre rassemblement avec la paix que ta message a été partagée, Seigneur. Ta message que on est tous perdus, que on a choisi de te rejeter, mais que toi, non, toi décidé de nous aimer, de nos ouvrir la porte d'amour de Jésus pour nous renouveler le cœur e selon ta volonté nous renouveler aussi nos comportements selon ta direction à ton temps. Papa, tu es tellement beau. Quand je pense à mes péchés, comment tu m'as pardonné, tu es bon, papa, merci. Donne-nous, papa, la conscience de comment tu nous as pardonné et aimé. Comment c'était dur à toi, Jésus, mourir pour nous, pour qu'on puisse aimer chaque personne. Pas rejeter, mais aimer comme on a été aimé par toi. Sois glorifié ce matin par les chants qu'on va chanter.